voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Jean Starobinski, récemment disparu. Le théoricien de la littérature s'entretenait en 1999 avec Gérard Massé. Ce soir, l'encre de la mélancolie.
Jean Starobinski, nous parlions hier du genre de l'essai, puisque c'est celui que vous pratiquez. Or, il y a une caractéristique obligé dans l'essai, c'est que il y a une parole de l'auteur, vous en l'occurrence, et puis il y a beaucoup de citations. D'autant que vous tenez à interpréter, non pas dans le sens arbitraire du terme, mais à être fidèle à celui que vous écoutez et à apporter des preuves, en quelque sorte. C'est au point que votre dernier livre, celui qui vient de paraître et qui s'appelle « Action et réaction », commence par une page qui est très frappante parce que il y a deux longues citations, une citation en exergue puis une citation dans le corps du texte, et il y a deux ou trois lignes de vous. Or, vous avez écrit un jour que la citation était un aveu de faiblesse et qu'elle récite avec prédilection les discours de la mélancolie.
En effet, j'ai écrit cela, et il est évident que lorsqu'on a recours à une matière étrangère, comme dit Montaigne, c'est pour étoffer quelque chose qui est comme un manque en soi. C'est une perspective sur la citation et sur le recours à la citation, surtout lorsqu'elle est, comme chez Montaigne ou comme chez Burton, un ornement, et qu'elle dit mieux ce que l'auteur a voulu dire. Le mélancolique a le sentiment de ne pas aller jusqu'au bout de son pouvoir ou d'être dénué du pouvoir de l'expression, et il lui arrive de citer, et il lui arrive de parler par lieu commun, comme le Jacques de As You Like It, d'admirables lieux communs. Et c'est là que la citation est aveu de faiblesse. D'un autre côté, la citation peut être considérée comme ce dont on doit s'approcher, l'objet qui s'offre à nous et qui va nous révéler quelque chose. La citation est, pour certains qui aiment les rechercher, quelque chose comme la fleur rare qu'il attendait et qu'il veut observer, qu'il veut faire connaître à ses amis.
Mais vous aimez citer?
J'aime citer, oui, parce que ma manière de composer, c'est de me mettre en chemin. Je n'ai pas la présomption de croire que je vais trouver en moi et par moi une perfection qui serait issue de moi-même. Et je n'ai pas le sentiment non plus que lorsque je rencontre le monde, je suis le premier à le voir. Dès lors que mon intérêt consiste à consulter des textes, tirer des livres, écouter d'autres voix, alors il faut les faire entendre et les confronter. Et la citation est cette récolte de voix qui vont concerter grâce à moi. Donc je vais m'engage dans une recherche où, bien sûr, les choses les plus belles ne sont peut-être pas celles que je dis, mais dans lesquelles ma réussite sera d'avoir imaginé un chemin au long duquel des découvertes surviennent.
Mais vous qui êtes sédentaire, alors est-ce que vous trouvez dans la citation une forme de nomadisme ou de cueillette ?
Assurément, absolument. Oui, oui, oui. Un de mes projets actuels, parlons-en, mais c'est un projet très avancé, il ne faut pas parler de projets qui ne se réaliseront pas, c'est de voir dans la poésie de l'Occident avec peut-être quelques regards sur l'Orient, le statut très particulier des fleurs solitaires ou des fleurs secrètes. Depuis le narcisse de la prairie de Perséphone et qui l'attire vers le royaume des morts, c'est là que la guette Hadès, mais aussi la fleur secrète de tel poème de Baudelaire ou de l'élégie écrite dans un cimetière de campagne de Gray. Il n'y aura pas beaucoup de moi-même dans ce livre ou dans cette plaquette, je ne sais pas la dimension que prendra cette recherche. Il y aura des poèmes, ce sera une anthologie, mais j'aurai tracé mon chemin et j'aurai tenté de prouver que si au départ la fleur secrète ou solitaire, fleur très particulière, et qui n'est pas au milieu de toutes les fleurs des prairies, est à la fois l'objet d'amour et un emblème de la mort, elle est devenue, à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, de plus en plus une espèce de double du moi, et qu'elle correspond à une introversion narcissique en ce qui touche à l'amour et à la mort. Alors que le mythe antique et les images plus anciennes les situaient dans un univers extérieur. C'est peut-être une thèse à discuter, mais mon parcours sera un parcours anthologique. Et j'espère faire œuvre, malgré tout, en récoltant ces fleurs secrètes de la littérature.
Et ce qui me frappe dans votre art de la citation, parce qu'il y a un art très particulier de la citation et qui appartient à chacun, et peut-être même qu'on pourrait déterminer chez chaque essayiste quel est son art particulier de la citation, il n'y a pas la volonté chez vous d'appropriation stylistique. Je veux dire par là que vous respectez parfaitement la distance, la coupure ou la rupture de ton entre votre propre parole et l'exemple que vous proposez. Et il me semble que cela va avec la nécessité chez vous, pour mettre sans doute la pensée en branle, d'avoir deux termes qui ne s'ajointent pas ou ne s'ajustent pas tout à fait, qui réagissent l'un sur l'autre. Et vous voyez bien que, en parlant de cela, je fais allusion très précisément au livre que vous venez de publier qui s'appelle « Action et réaction ». C'est un titre sévère et en même temps il est corrigé par un sous-titre. Ce sous-titre c'est « Vie et aventure d'un couple ». Couple de mots, naturellement, ça pourrait presque être un livret d'opérette. Enfin bon, le lecteur ne s'y trompera pas longtemps. Je remarque que vous avez toujours eu besoin de deux termes pour pouvoir avancer. Voilà, c'est-à-dire que il suffit de rappeler le livre de vous qui est sans doute le plus célèbre parce que les étudiants en lettres ont eu à l'ouvrir, c'est La transparence et l'obstacle, votre maître livre sur Rousseau. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est comment un couple s'impose plus qu'un autre, parce que je vois bien que dans le couple action et réaction, il y a des noces d'argent qui pourraient être fêtées, parce que c'est un couple qui apparaît dans votre bibliographie il y a plus de 20 ans, peut-être 25 ans, quelque chose comme ça.
Bien sûr, bon.
Voilà. Mais il y en a d'autres qui auraient été possibles. Je pense au naturel et à l'artifice, à l'être et au paraître, au masque et à la vérité, peut-être dans à l'ordre et à la variété, je crois que ça apparaît dans l'invention de la liberté. Donc cette action et réaction qui s'est finalement imposée, et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre?
Parce qu'il avait son champ d'application chez les philosophes, chez les physiciens, chez les médecins, chez les psychologues et les politiciens. Donc cela me permettait, ou cela m'obligeait, de traverser des domaines distincts et de montrer que certains outils intellectuels, certains grands organes de la pensée, sont communs à différentes disciplines et à une époque où l'on déplore tant le compartimentage des disciplines, leur ignorance mutuelle, il me paraissait important de montrer que la vie d'un mot a été une traversée à partir de la physique et d'applications métaphoriques d'un peu tout le langage de la culture. Et ceci dit, agir et réagir, c'est quelque chose de fondamental que la physique décrit en termes mathématiques, mais qui a pu être adopté par les poètes dans une sorte de reconversion du côté des intuitions de la vie. Du coup, j'ai fait une traversée de la culture occidentale sur un frêle esquif, sur un brin d'herbe, comme dirait Balzac, au fil de l'évolution de cette culture. Mais je suis convaincu que, quelquefois, il faut s'adresser à des éléments limités, ténus, restreints, pour qu'ils nous servent d'indices, d'indicateurs, de réactifs, pour reprendre un terme de la famille.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre aussi une sorte d'histoire des sciences, c'est-à-dire l'observation du passage du symbolisme, voire de l'occultisme ou de la parapsychologie à la science expérimentale?
Oui, le point de départ étant un emploi occasionnel de termes dans la science aristotélicienne, il s'est trouvé que le mot réaction supplantant le mot passion, qui est l'antonyme normal d'action, a eu une fortune extraordinaire parce que ça a été la loi linguistique de la traduction en langage commun de règles que les géomètres, comme disait Diderot, Newton, ont pu établir. Ces règles formulées dans le troisième axiome de Newton, l'action est toujours égale à la réaction et de sens inverse. Donc il y a une réciprocité quantifiable
Alors dans ce domaine-là, elle est quantifiable, mais dans le domaine de la maladie, elle l'est moins. Or, j'ai remarqué
On l'aurait souhaité, oui, les médecins l'imaginaient, croyaient qu'il la tenait. Oui.
Mais à propos, je crois que c'est à propos de Rousseau, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel texte, peut-être dans le texte intitulé « La maladie de Rousseau », vous parlez déjà de la maladie comme d'une réaction, justement. Oui. Et puis, il y a un mot de Bichat que vous citez, si ma mémoire est bonne, même plusieurs fois dans vos différents livres, qui est « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». Oui. C'est à la fois très banal et très beau. Est-ce qu'il y a donc dans l'histoire des maladies quelque chose qui vous aide dans l'histoire de la pensée?
Ah, je le crois, la pensée médicale a absorbé la pensée des physiciens au XVIIIe et au XIXe siècle en croyant pouvoir l'appliquer presque instantanément. Les premières extrapolations de la physique en direction de la médecine ont été naïves. On croyait que la fièvre était l'effet du frottement du sang dans les artères, car comme chacun le sait, des surfaces frottées l'une contre l'autre produisent de la chaleur. Donc il y a eu des extrapolations hâtives, mais finalement la physico-chimie s'est emparée de la médecine et nous avons maintenant une pensée causaliste qui s'applique très bien au phénomène du corps. Et je dirais que ce qui m'a passionné dans l'aventure de action et réaction, c'est que ce couple de mots qui sont redescendus dans la langue courante a été l'exécuteur des hautes œuvres de la causalité. C'est lorsqu'on veut évoquer une causalité absolument inévitable, on parle de l'enchaînement des actions et des réactions. La pensée positiviste ou les extrapolations positivistes du 19e siècle voulaient que toute l'histoire de la Terre ne soit qu'une suite d'actions et de réactions à partir de l'état primitif de la planète. Il n'y a jamais eu que des actions et des réactions jusqu'à la formation des êtres vivants, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre aussi la volonté de dissiper des illusions et de faire quelque chose qui ressemblerait alors à ce que Baltrus Haïtis a fait dans un autre domaine quand il décrit des aberrations?
En effet, sitôt qu'un mot de la langue scientifique tombe dans la langue commune, et il faut bien un mot pour abréger des séries d'équations. On dira théorie des catastrophes, et des gens qui ne savent pas écrire une équation ou lire une équation allégueront la théorie des catastrophes, parce que c'est facile à dire. C'est là que les abus de mots dénoncés par Sokal et Bricmont sont inévitables, d'abord parce que les scientifiques eux-mêmes, qui tiennent à l'universalité et à la démonstrabilité rigoureuse de leurs propositions, se servent de ces abréviations. Mais la langue, cette langue-là dans laquelle les philosophes organisent quelquefois leur raisonnement, n'est pas la même. Nous vivons et c'est une chose qui me paraît importante, j'aurais dû y insister peut-être davantage, nous vivons dans la condition du bilinguisme. Entièrement valides sont les équations, les démonstrations et même les problèmes où bute la science, parce que elles sont soumises à contradiction, à vérification, à débat, et qu'il y a un certain universel de la raison scientifique qui est indéniable. D'un autre côté, ce langage scientifique, il est construit par nous, vérifié sur le monde, il est notre œuvre, il résulte de nos choix de rationalité, alors que nous sommes des êtres vivants, souffrants, dormants, rêvants, et c'est à partir de ces expériences incertaines, floues, portant en elles la virtualité de la raison, que nous avons construit ce langage rationnel. De sorte que ce bilinguisme que j'évoque renvoie à une bifurcation qui s'est peut-être produite vers 1800, des deux langues, la langue scientifique, qui décrit l'univers, la gravitation universelle, la langue poétique dans laquelle l'homme se récupère lui-même dans le sentiment qu'il a d'habiter son corps, son monde, d'avoir un espace devant lui, de construire même l'idée de monde. Après quoi, peut-être que les mathématiques lui apporteront des outils plus fins pour atteindre la réalité, mais il ne doit pas oublier qu'il est cet être vivant premier.
C'est au fond l'alliance de la science et de la poésie à laquelle vous tenez fortement dans chacun de vos livres. Et par ailleurs, est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec Wittgenstein que nous pouvons décrire le monde, c'est-à-dire que la science s'applique à le faire et le mieux qu'elle le peut, mais qu'elle ne l'explique pas?
Où l'on pourrait reprendre les termes qui sont ceux de certains philosophes allemands et de Jaspers au début de ce siècle, opposant l'explication causale, qui explique beaucoup mais pas tout, et qui rencontre sa limite, notamment dans le domaine de la psychologie humaine, de la psychiatrie, et d'autre part l'effort de compréhension, qui est une autre approche, par la sympathie, par l'empathie, par ce que l'on vit avec autrui, les sentiments que l'on s'efforce de partager, et qui connaît aussi ses limites. La compréhension n'est pas, ne peut pas promettre l'omnicompréhension.
Voilà. Et alors, parliez justement de la pathologie ou des maladies mentales. Vous avez une formation, on l'a rappelé lors de notre premier entretien, qui vous mène à appréhender ces phénomènes. Et dans votre dernier livre, il y a un long développement qui concerne Freud et l'inconscient. Et là, j'aimerais vous interroger parce que il semble que vous sachiez gré à Freud d'avoir favorisé une observation meilleure que celle qui avait cours avant lui, et en même temps, vous lui reprochez, assez nettement même, d'avoir, à partir de ses observations, créé un système global. Et dans quel rapport êtes-vous avec Freud ?
Je l'admire d'abord parce qu'il a inventé un langage, et disons même un langage mythique. Il m'est apparu que, à regarder attentivement ses textes, à lire la Traumdeutung depuis l'épigraphe, il m'est apparu que Freud est le créateur d'un grand code, on a dit aussi d'un grand récit, oui. Au XXe siècle,
même peut-être de personnages, parce qu'au fond, le mot loup est un personnage légendaire du siècle. Enfin, il appartient maintenant à notre culture, et on pourrait citer d'autres personnages dans les études de cas de Freud.
Oui, on a indéfiniment glosé sur les cas de Freud, le petit Hans, ou l'homme au loup, et Dora. Ce sont devenus des héros de théâtre, on les a mis sur la scène, mais la doctrine de l'évolution des affects chez Freud est un grand récit. Il l'a construite en s'appuyant quelquefois sur des mythes antiques. Il semble que Virgile ait travaillé en lui autant que Sophocle et le mythe d'Édipe. Je rappelle simplement que quand Freud passe son examen de maturité, comme on disait en Autriche, il traduit l'épisode de Nisus et d'Euryale de l'Énéide, le récit de la sortie nocturne de deux jeunes gens qui sont liés par des liens d'étroite amitié et qui périssent tous deux dans l'aventure. Or, quand à la fin de la rédaction de l'interprétation des rêves de la Traumdeutung, Freud écrit l'une de ses dernières lettres à l'ami Fliess, il confesse que le mythe de Nisus et d'Euryale est resté présent en lui disant l'amitié masculine est pour moi indispensable pour la création de mes idées, etc. Jusqu'à un point très, très considérable. Il y a toujours eu un confident ou un ami ou un complice dans l'aventure de Freud, bien que Freud ait toujours joué le premier rôle.
Et des disciples ensuite, et je me demande si ça, vous n'êtes pas plus sévère encore pour les disciples quand ils ramènent l'inconscient à une opération de langage. Est-ce que ça n'est pas là que le bât blesse ?
Je dirais que d'abord, si l'inconscient est une opération de langage, ils peuvent le dire parce que la psychanalyse est un code linguistique. Et c'est un code linguistique admirablement constitué avec des éléments très libres et d'ouverture et d'options qui sont assez contraignants, mais néanmoins assez multiples pour s'ouvrir aux circonstances rencontrées dans la réalité, aux variations réelles, si bien que l'assimilation du réel dans le code peut se faire de manière assez souple en tenant compte de circonstances et de facteurs qui sont prévus dans le code, mais qui peuvent jouer selon une casuistique, selon des opportunités, des éventualités variables, et qui vont régler le rapport vécu, l'histoire vécue d'un thérapeute, l'analyste, et de l'analysant, comme on dit maintenant. De sorte que d'histoire en histoire et en passant par le code d'allure scientifique de la psychanalyse, il y a une mise en récit dont il ne faut pas nier que l'effet thérapeutique peut être puissant. Et la psychanalyse, qui est construite à partir d'histoires et qui se définit elle-même dans ses progrès à partir de nouvelles histoires, est capable d'assumer une histoire commune de l'analyste et de l'analysant. Donc je mets, peut-être me critiquera-t-on du côté analytique, je mets la psychanalyse du côté de la mise en récit.
Il y a une chose qui me plaît beaucoup dans ce que vous avez écrit à un certain moment, et je voudrais éviter une citation trop longue, mais celle-ci, je ne veux pas m'en priver. C'est « Dans le rythme binaire de ce monde qui cloche et où la parfaite cohérence est à jamais impossible, ce n'est ni le premier ni le second temps qui représente la vérité définitive. L'ironie philosophique constate que l'un ne va jamais sans l'autre, et que si le monde ne clochait pas, son mouvement s'arrêterait. » Vous êtes toujours d'accord avec cette
phrase ? Je reste d'accord avec cette phrase qui s'appliquait à Voltaire, mais que je prenais pour moi. Quelquefois, mais rarement, je m'observe, la façon dont je paraphrase, car je ne me l'interdis pas, les auteurs, pour les expliciter, est une façon aussi de m'approprier leur message. Et il peut arriver que le monde cloche d'une façon vraiment tragique et douloureuse. Et ce qui se dit avec le sourire, quand on le dit avec Voltaire, peut se dire avec tristesse et grimace quand on pense au monde d'aujourd'hui. Et cependant, c'est une façon de ne pas dire rigidement qu'il y a une dialectique de l'histoire. Voilà. Je préfère dire que le monde cloche. Et la dialectique elle-même cloche. Synthèse n'est pas au rendez-vous.
Voilà. Et est-ce que cette phrase, ne rend pas compte du fait que vous n'avez jamais eu de volonté de globalisation, de système ou de grille interprétative qui serait à jamais valide ?
J'ai préféré la métaphore du chemin aventureux à celle du progrès vers un but. Il m'est arrivé en simplifiant beaucoup les choses, de considérer à la fois les beaux-arts, mais ça pourrait être bien d'autres choses aussi, sous l'angle d'une triple espérance ou d'une triple valorisation. La perfection, le chemin, l'origine. La perfection, c'est l'arrivée à quelque chose qui serait définitif et qui serait le beau ou la forme accomplie, la forme vraiment achevée. Et quand on s'aperçoit que cette forme échappe, alors quelque chose devient malgré tout, reste ou demeure, qui est l'expérience faite en route vers cette perfection inatteignable.
Cette métaphore du chemin permettait moi de voir immédiatement le signe de Baudelaire qui boite lui aussi.
Oui, absolument, absolument. Et finalement, que peut-il rester ? C'est quelque chose qui a beaucoup compté pour nous. Si le chemin lui-même, c'est-à-dire pour l'art, les esquisses, les ébauches, les textes inachevés, tout ce qui est simplement en étape dans l'acheminement, n'est encore plus ce qu'on peut retenir, que reste-t-il ? L'origine, ce sentiment que on est parti d'un point qui est de liberté, d'angoisse, etc. Et l'art contemporain a de plus en plus mis l'accent ni sur la perfection, ni même sur le chemin, mais sur ce qui éruptivement, immédiatement, est fidèle ou à l'origine révélateur d'une origine.
Sur son propre matériau, quelquefois. Je me demande alors de ce point de vue si on ne confond pas perpétuellement ce qui serait l'expression et puis la forme artistique qui est tout de même quelque chose de plus élevé et de plus transposé et de plus libérateur donc.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Gérard Massé avec Jean Starobinski en 1999. À voix nue, réalisation Bruno Sourcy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.